Bonjour à tous. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni, où Boris Johnson est en train de se transformer en John Maynard Keynes.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est la grande inquiétude des Européens au lendemain du Brexit que le Royaume-Uni se transforme en Singapour sur Tamise et devienne la terre promise d'un libéralisme effréné. Pourtant, c'est la direction contraire que prend la politique économique de Boris Johnson. Sauvetage de Flybe, nationalisation de la Northern Rail, hausse du salaire minimum, la puissance publique britannique se réinvestit dans l'économie. Un revirement inattendu qui pose la question du futur modèle économique du Royaume-Uni à l'heure où le pays plonge dans le grand bain de la concurrence mondiale. Alors est-ce la fin du laisser-faire économique Royaume-Uni ? Boris Johnson peut-il concilier le libéralisme de ses électeurs du Sud et l'étatisme des Brexiteurs du Nord ? Et plus largement, à quoi ressemblera la relation commerciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui devrait se dessiner dans les prochains mois ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour ce premier épisode de la saison 2 du Brexit, trois invités. Bonjour Vincent Vicard.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CEPI, le Centre de Recherche et d'Expertise sur l'économie mondiale. À vos côtés, Catherine Mathieu. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et spécialiste du Royaume-Uni. Et enfin avec nous, en duplex de Londres, Éric Albert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et collaborateur au journal Le Monde. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Je suis très fier de ce que nous avons accompli ces 108 derniers jours. Le plus important programme d'investissement dans le système national de santé depuis une génération, des fonds levés pour les écoles partout dans le pays, 40 nouveaux hôpitaux, 20 000 policiers de plus dans les rues. Nous programmons une révolution des infrastructures, dans le rail, la route, depuis les bus électriques jusqu'au nouveau plan de mobilité douce, l'Internet haut débit dans tous les foyers. Et nous sommes sûrs, car nous sommes une nation conservatrice, de réaliser ces investissements non pas malgré nos convictions dans la force d'un secteur privé, mais précisément parce que nous défendons cette économie d'entreprise au Royaume-Uni. Car nous sommes convaincus que c'est seulement en ayant une économie de libre marché dynamique que nous réussirons notre programme. Et c'est seulement si vous avez de bons services publics que vous pourrez avoir une économie de marché performante.
Le Premier ministre britannique, lors du lancement officiel de la campagne des législatives, c'était le 6 novembre dernier. Éric Albert, on va commencer avec vous. Boris Johnson, chef des conservateurs, est-il en train de faire un virage à gauche ?
C'est une très bonne question et de fait, juste pour prendre un peu de recul, il faut garder en mémoire qu'on est maintenant à l'année qui va vraiment tout décider. Pendant 3 ans et demi, le Royaume-Uni s'est déchiré politiquement dans tous les sens, ça n'a pas avancé. Finalement, le Brexit a eu lieu grâce à son intervention, on va dire, forte. Mais la seule chose qui a été décidée pour l'instant, c'est politique. On sait que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, n'aura plus de commissaire européen, n'aura plus de député européen. Boris Johnson ne sera pas au sommet européen. Rien, en revanche, n'a été décidé sur quelles seront les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Quel objectif commercial est-ce que Boris Johnson veut avoir ? Est-ce qu'il veut jouer Singapour sur Tamise ou est-ce qu'il veut, au contraire, faire un virage à gauche ? Et le problème avec Boris Johnson, c'est qu'il passe son temps à promettre tout et son contraire. C'est le beurre et l'argent du beurre. Et donc, l'année qui vient, les décisions qui viennent sont absolument essentielles pour l'avenir probablement de long terme du Royaume-Uni.
On entend cet exercice d'équilibriste, Catherine Mathieu, dans ce discours de Boris Johnson, où on a l'impression que d'un côté, il prend ses distances par rapport au libéralisme traditionnel des Tories, mais sans l'assumer vraiment.
Moi, je dirais que quand même, il l'assume plutôt bien, parce que ce qu'il dit clairement dans ce discours, Boris Johnson, ça correspond d'ailleurs tout à fait aux éléments de campagne qu'il a eu lors de la campagne des législatives en décembre dernier, c'est de dire qu'il faut aujourd'hui au Royaume-Uni davantage d'investissements publics. Ça n'est pas quelque chose de nouveau en fait chez les conservateurs, hein. Ça fait déjà plusieurs années que les conservateurs disent, ce qui est en intervient quand même après des années de thatchérisme au Royaume-Uni, que les conservateurs disent aujourd'hui, là, on est allé trop loin. On a trop démantelé les services publics, notamment en matière de transport, mais aussi en matière de santé. Et dans la campagne législative de décembre dernier, mais comme dans celle des années précédentes, la question notamment de remettre à niveau les dépenses dans le système de santé britannique était au cœur des débats, à la fois du côté travailliste et du côté conservateur. On disait, si nous sommes élus, nous allons mettre davantage d'argent dans le système public. Et ce qui était un peu nouveau tout de même du côté des conservateurs avec l'arrivée de Boris Johnson, c'était de prendre en compte le fait que dans certaines régions au Royaume-Uni, celles qui avaient voté en majorité pour le Brexit, au nord de l'Angleterre notamment, il y avait des besoins particuliers de remettre à niveau les dépenses publiques, notamment en matière de transport. Et donc effectivement, Boris Johnson s'est engagé dans un programme où il annonçait qu'il y aurait un programme important de dépenses, d'investissement dont les Britanniques ont besoin après des années et des années et des années d'austérité.
Mais de là à parler d'un virage à gauche, ce serait trop fort pour vous ?
Oui, je pense que ça n'est pas un virage à gauche. Je pense que c'est davantage un très grand pragmatisme de prendre en compte le fait qu'après avoir déroulé la mise en place d'un État très libéral et dont la part s'est réduite, notamment à partir du début des années 80 avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, puis les années d'austérité qui s'en sont suivies, il y a enfin chez les conservateurs des décisions qui sont annoncées pour corriger un peu ces effets-là. Mais ce n'est pas un virage à gauche, c'est davantage prendre en compte les besoins qui s'expriment à l'intérieur du Royaume-Uni. Et effectivement, ce qui est un peu étonnant, on va dire, dans l'approche, dans ce qu'a réussi Boris Johnson, c'est à la fois de s'allier le camp conservateur très libéral, britannique traditionnelle et une partie de l'électorat britannique qui votait plutôt traditionnellement travailliste et qui a été séduit par le discours de Boris Johnson sur justement c'est l'annonce de dépenses sociales importantes.
On a quand même l'impression d'un retour important de l'État dans l'économie. Alors il faudrait peut-être se demander ce que ça implique, Éric Albert, et notamment par exemple ce retour dans le giron de l'État de la Northern Rail, la compagnie ferroviaire qui dessert le nord de l'Angleterre. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette décision ?
C'est du pragmatisme de très court terme, puisque dès 2018, il y a eu une première nationalisation d'une franchise ferroviaire. Ça, c'est une deuxième, parce qu'ils ont des problèmes assez importants aujourd'hui avec les trains qui sont privatisés. Ils ont des entreprises privatisées qui ne gagnent pas suffisamment d'argent. Donc, il fallait intervenir. Le tabou de la nationalisation est déjà tombé il y a plusieurs années maintenant. Mais effectivement, on n'en est plus à l'époque où David Cameron, notamment, ne voulait surtout pas intervenir, quoi qu'il en soit, voulait absolument réduire l'État. Donc il y a eu une inflexion.
Il faut quand pas on entend trop, plan d'investissement...
De même sur le salaire minimum...
Allez-y.
Sur le salaire minimum, le salaire minimum britannique est aujourd'hui au-dessus, va passer en avril, au-dessus du salaire minimum français. C'est historique, c'est très intéressant. En même temps, c'est une tendance de 5-6 ans qui a été lancée par George Osborne. Et l'idée, c'était de réduire les allocations. Les gens qui travaillent souvent des allocations sociales, pour les réduire, il a décidé d'augmenter le salaire minimum. Donc on est effectivement sur une inflexion, mais pas sur, pour l'instant, un grand virage à gauche, pas du tout.
Cette augmentation du salaire minimum, c'est effectivement intéressant. Ça relance la problématique des travailleurs pauvres. Mais l'objectif, finalement, Catherine Mathieu, c'est surtout de diminuer en parallèle les aides sociales dont bénéficient ces travailleurs pauvres.
Oui, effectivement, l'objectif, c'est que chacun puisse travailler au Royaume-Uni sans avoir besoin d'aide sociale. Effectivement, de réduire les aides sociales auprès des travailleurs pauvres. Alors, cette politique de revalorisation du salaire minimum, elle a été mise en place depuis plusieurs années. Et en fait, ça n'est pas le gouvernement qui fixe la revalorisation du salaire. C'est une commission indépendante qui est composée à parité d'experts de l'université, de représentants des organisations patronales et de représentants des organisations salariées. Et en fait, ce que le gouvernement a demandé à cette commission, c'était de prévoir une trajectoire d'augmentation du salaire minimum, ça elle l'a demandé il y a déjà plusieurs années, pour atteindre 60% du salaire, pour que le salaire minimum atteigne 60% du salaire médian. Et donc en avril 2020, on atteindra probablement ce niveau-là pour le salaire adulte. Il y a plusieurs taux de salaire au Royaume-Uni, et il y a des salaires pour les jeunes, des taux jeunes qui sont beaucoup plus faibles que pour les plus de 25 ans. Donc le taux des adultes de plus de 25 ans atteindra 60% du salaire médian, ce qui effectivement amènera le salaire minimum britannique au niveau du salaire français. Et ce qui est intéressant aussi dans la démarche du gouvernement actuel de Boris Johnson aujourd'hui, c'est de dire que probablement la commission qui va se mettre en place maintenant aura pour objectif de proposer une trajectoire pour que le salaire minimum atteigne 2/3 du salaire médian d'ici 2024. Donc il y a vraiment toujours le souhait de revaloriser le salaire minimum en faisant toujours très attention à ce que ce soit quelque chose qui soit accepté par les entreprises, par les salariés, de façon très large, avec des études qui ont été faites jusqu'à présent et qui montrent que cette hausse du salaire minimum n'a pas eu d'impact négatif sur l'emploi.
Le taux de chômage outre-Manche est au plus bas depuis les années 70, en effet, à 3,8%. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a tout de même un certain nombre de mesures qui sont prises et qui signent un retour de l'État dans l'économie. Je pense en particulier au plan de sauvetage de Flybe, Éric Albert. Comment expliquer que la puissance publique britannique soit venue au secours d'une compagnie aérienne comme Flybe ?
C'est intéressant parce que Flybe, effectivement, il y a eu une intervention du gouvernement qui a accepté de repousser un impôt sur les passagers, une taxe sur les passagers, afin de sauvegarder cette compagnie aérienne. C'est un vrai changement. Il y a 15 ans maintenant, les entreprises, ou même 20 ans d'ailleurs, les entreprises automobiles britanniques ont toutes fermé les unes après les autres, sans que le gouvernement, notamment sous Tony Blair, ne bouge. Je me rappelle aussi de Cadbury, qui était une entreprise qui fait du chocolat, qui avait été rachetée par une entreprise américaine, et ça avait provoqué beaucoup de polémiques, et le gouvernement avait laissé faire. Donc ce laisser-faire absolu qui venait de Thatcher est terminé. On l'a vu avec le rail, on le voit maintenant avec Flybe, mais c'est à la marge. On est vraiment à la marge avec une décision du gouvernement très très limitée. La question, c'est notamment une question que les Européens vont poser, c'est est-ce que après le Brexit, le gouvernement britannique va accepter de vraiment changer les aides d'État, de faire de l'aide d'État, par exemple, de pousser un champion national quelconque, par exemple dans l'informatique, ou est-ce que ils vont continuer le libre marché? Et les Européens regardent ça de très près parce que vraiment les Européens ne veulent pas avoir une grande puissance économique comme le Royaume-Uni à leur porte avec un gouvernement qui serait trop activiste.
Alors, on va voir effectivement, Éric Albert, ce qui va se dessiner en termes de relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais un dernier mot sur ce sauvetage de Flybe. Peut-être que c'était lié au fait que c'est une compagnie aérienne spécialisée dans la liaison entre les villes moyennes. Donc, il y avait aussi l'idée de répondre aux électeurs du Nord, à ces bastions travaillistes qui s'étaient retournés du côté des conservateurs. Mais tout de même, on peut dire que c'est une entorse au droit de la concurrence. Il y a la compagnie britannique IAG, la maison mère de British Airways, qui a déposé une plainte auprès des instances européennes de la concurrence justement pour dénoncer ça. Donc on voit que les pouvoirs publics britanniques sont prêts à prendre ce risque-là.
Ils sont prêts à prendre ce risque-là, c'est nouveau et ça correspond effectivement à la promesse de Boris Johnson d'être plus présent et d'investir. J'attends vraiment, je suis très très prudent parce que, si vous voulez, la tension qu'il y a au sein du gouvernement de Boris Johnson, c'est d'un côté Boris Johnson qui promet effectivement plus d'intervention, plus de protection, un meilleur salaire minimum, et puis de l'autre, les idéologues du Brexit sont des gens qui rêvaient d'un Singapour sur Tamise, qui eux veulent une dérégulation, qui veulent s'éloigner des règles de l'Union européenne. Il y a un moment où il va falloir quand même choisir. C'est-à-dire si le Royaume-Uni, à la fin de l'année, à la fin de la période de transition, décide de vraiment s'éloigner de l'Union européenne, alors à quoi bon s'éloigner de l'Union européenne si c'est pas pour baisser les régulations, si c'est pour les garder en l'état, à quoi ça sert? Donc il y avait une vraie tension et encore une fois, sachant que Boris Johnson n'est pas à un demi-tour près, sachant que Boris Johnson passe son temps à tout promettre à tout le monde, c'est très dur de savoir dans quel sens ils vont vraiment aller. Donc oui, il y a eu une volonté d'intervenir un peu sur Flybe, mais on est vraiment à la marge. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Je ne sais pas.
Mais quand Boris Johnson dit qu'il veut lancer un plan massif d'investissement en infrastructure, qu'il veut mettre en place une politique industrielle, on se dit que le Royaume-Uni met en place qu'il a passé son temps à combattre quand il était dans l'Union européenne, hein, Catherine Mathieu.
Oui, on pourrait même dire que la position aujourd'hui de Boris Johnson, qui est la même que celle qu'avait hier Theresa May quand elle était première ministre, va à contre-courant de ce qu'avait mis en place Margaret Thatcher. Hein. C'est plutôt ça, en fait. Déjà, c'est à l'intérieur du parti conservateur, on change la façon de faire de la politique économique. Du moins, c'est ce qu'on annonce. Et moi, ma perception, c'est qu'il y a ce grand pragmatisme aujourd'hui chez les conservateurs qui est de dire il y a des choses qui ont été faites, qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et en particulier, on voit qu'il y a des problèmes. Prenons le cas des transports publics, effectivement. Et il faut remettre de l'argent public si on veut pouvoir construire une ligne, un train à grande vitesse qui reliera Londres et le nord de l'Angleterre. Et ça ne sera pas le secteur privé qui sera capable de faire ça. Et on l'assume. Et donc, on est prêt à mettre un financement dessus. Et alors, je pense que indépendamment de cette question cette approche très pragmatique du Parti conservateur aujourd'hui sur les besoins de financement dans l'économie britannique, il y a aussi le fait que à court terme, maintenant, s'engage la période de transition pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, que très probablement la situation économique ne va pas être facile dans les prochains mois, et le fait que le gouvernement s'apprête à annoncer en mars prochain, la présentation du budget sera faite le 11 mars, un plan important d'investissement public. C'est effectivement une façon très keynésienne de gérer la situation de l'économie britannique qui se trouve dans une situation probablement qui va être fragile au cours des prochains mois. Et donc annoncer qu'on fait de l'investissement public, c'est annoncer aussi un soutien à la croissance et quelque chose d'utile pour l'avenir.
Vincent Vicard.
Oui, il faut pas oublier d'où part le Royaume-Uni et notamment ce qui a conduit aussi au Brexit. On a vu que l'austérité, et c'est effectivement, ça remonte à loin dans l'économie britannique, mais ça remonte à beaucoup plus près avec Cameron. Entre 2010 et 2015, il y a eu une austérité extrêmement importante au Royaume-Uni. Et quand on regarde, on s'aperçoit que les personnes et les régions qui ont été touchées par cette austérité ont été ces régions qui ont voté en faveur du Brexit. Et donc, il y a une sorte effectivement de pragmatisme, de répondre à ses aspirations de la part de Boris Johnson d'investissement dans les infrastructures publiques et éventuellement d'un rôle plus important de l'État dans l'économie. Mais il faut se rappeler qu'en termes de dette d'État, on part de très loin pour le Royaume-Uni qui dépense beaucoup plus dans les soutiens aux entreprises, beaucoup moins dans les soutiens aux entreprises que la plupart des pays européens. Et les règles européennes, elles ont longtemps servi pour les gouvernements britanniques pour ne pas intervenir en utilisant comme excuse ces aides d'État et ces règles sur les aides d'État européennes.
Mais après des années d'austérité, on peut dire que le Royaume-Uni, Eric Albert, est aujourd'hui prêt à financer cet interventionnisme étatique par plus de déficits, ou est-ce qu'on peut aussi s'attendre à une hausse des impôts ?
Une hausse du déficit, c'est certain. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un peu de marge de manœuvre puisqu'ils ont vraiment assaini les comptes. Ceci étant dit, sur le budget du 11 mars, ce sera vraiment le vrai test. Parce que j'attends de voir la réalité du plan keynésien et la réalité des dépenses. En même temps que Boris Johnson promet tout un grand plan de dépenses d'investissement, il a demandé déjà à ses différents ministères de trouver un certain nombre d'économies dans les dépenses courantes. Donc, on est encore sur cette balance qui est une balance qui n'est pas absurde d'un point de vue économique, dire attention, d'un point de vue des dépenses courantes, il faut équilibrer. Par contre, sur l'investissement, on peut dépenser. J'attends vraiment de voir la réalité des travaux, la réalité des financements de tout ça, parce que je me méfie énormément des promesses de campagne de Boris Johnson.
Catherine Mathieu, on peut dire que Boris Johnson peut se permettre ce creusement des déficits, et notamment parce que aussi la Banque d'Angleterre pourra soutenir un peu plus l'économie anglaise en abaissant ses taux directeurs.
Oui, alors déjà sur le plan budgétaire, on part d'une situation où il y a un déficit public qui est de l'ordre de 2% du produit intérieur brut au Royaume-Uni et une dette qui est comprise entre 80 et 85% du produit intérieur brut. Donc en fait, il y a un peu de marge pour accroître les déficits aujourd'hui sans que le gouvernement conservateur soit taxé de prendre des mesures totalement irresponsables.
Là où la dette représente à peu près 100% du PIB en France.
C'est à peu près ça, effectivement. Donc il y a un écart qui est loin d'être négligeable. Et on ne connaît pas aujourd'hui les mesures exactes qui vont être annoncées dans le budget du 11 mars, mais je suis d'accord qu'effectivement ce sera un test, hein, ce budget-là. Mais ce que nous dit déjà actuellement le chancelier de l'échiquier, donc le ministre de l'économie britannique, Sajid Javid, c'est qu'il s'apprête à mettre en place de nouvelles règles budgétaires, dont une des règles ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la règle d'or des finances publiques, sans dire le nom pour le moment, c'est-à-dire une règle selon laquelle l'État peut s'endetter pour investir. Et selon les nouvelles règles que mettrait en place le gouvernement britannique, il y aurait une règle disant que l'État peut s'endetter pour investir jusqu'à 3% du produit intérieur brut. Donc ça laisse une marge pour faire 1% supplémentaire d'investissement financé sur la dette à court terme pour le gouvernement. Et cette mise en place de nouvelles règles de type règle d'or des finances publiques, si elle a vraiment lieu, elle s'accompagnerait d'ailleurs d'une règle où l'État garantirait qu'il ne s'endette pas pour financer les dépenses courantes, mais qu'il ne s'endette que pour financer l'investissement, ça serait plutôt une bonne chose, me semble-t-il.
Une bonne chose peut-être notamment pour le système public de santé britannique, qui était, comme on l'a dit, l'un des enjeux de la campagne en vue des élections de décembre.
Aujourd'hui, Donald Trump est arrivé en Grande-Bretagne. Je l'ai vu parce que sa voiture est passée devant ma maison hier soir. Donc je sais qu'il est là. Nous accueillons volontiers tous les visiteurs et nous devons toujours traiter les gens avec respect et politesse. Mais je veux lui dire, doucement et très simplement, mais de manière extrêmement ferme, il n'y aura aucun accord commercial avec les États-Unis sous un gouvernement travailliste avec les services publics sur la table. Et le NHS ne sera pas vendu à quiconque.
Le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, c'était le 3 décembre dernier. Quelle est l'inquiétude de l'opposition au sujet du système public de santé? Est-ce que les Tories veulent libéraliser ce système comme le prétend l'opposition, Catherine Mathieu?
Alors ça, c'est une inquiétude, effectivement, que les travaillistes ont beaucoup mis en avant dans la campagne. Alors bien sûr, on sait que chez les conservateurs, on n'est pas en faveur d'avoir un système de santé public. Mais pour la majorité de la population britannique, ce système de santé public, ce NHS, ce National Health System, hérité de la Deuxième Guerre mondiale, est très important. Et ça, je crois que les conservateurs ont fini par intégrer cette idée que oui, c'est important que ce système de santé soit là et reste public. Alors l'inquiétude du côté notamment des travaillistes telle qu'elle est exprimée lors de la campagne de décembre, c'était qu'à partir du moment où Boris Johnson reste chef du gouvernement et que des négociations s'engagent avec les négociations commerciales avec d'autres pays, notamment avec les États-Unis, que les États-Unis disent, eh bien très bien, discutons un accord de libre-échange avec vous, mais dans cet accord de libre-échange, il faut qu'il y ait tout qui soit mis sur la table. C'est ce qu'avait dit Donald Trump il y a quelques mois. Et donc ce qu'il y a tout sur la table, ça veut dire en particulier le système de santé britannique qui donc actuellement est public, où les prix des médicaments sont relativement faibles en tout cas par rapport à ceux qui sont en vigueur aux États-Unis. Et on voit bien que du côté américain, on serait très tenté d'arriver sur le marché et de mettre en vente des médicaments, de développer des systèmes de soins privés. Et donc cette privatisation rampante du NHS est quelque chose sur laquelle je pense effectivement les Britanniques doivent rester très vigilants. Parce qu'aujourd'hui, si Boris Johnson et son gouvernement disent hors de question qu'on privatise le NHS, on gardera ce système de santé public et on va mettre davantage de moyens pour le financer. Rien n'empêche qu'à un moment donné, dans les rapports de force, vu les différences de rapports de force entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qu'à un moment donné, finalement, le gouvernement britannique soit amené à dire « Eh bien, oui, on acceptera un peu de privatisation. » Donc, c'est un risque, en fait.
Vincent Vicard.
Du point de vue américain, ça a été très clairement exprimé, la volonté d'avoir, de négocier sur les questions sur le NHS, mais d'avoir aussi, pour les multinationales américaines, un droit de regard sur la fixation des prix, les taux de remboursement, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des négociations américaines qui ont tendance à défendre leurs industries pharmaceutiques lorsqu'ils négocient des accords commerciaux avec le reste du monde. Et dans le cas du Royaume-Uni, le NHS est aussi un des instituts qui est scruté dans le monde et dont les politiques de fixation des prix et de remboursement sont aussi utilisées comme exemple dans d'autres pays. Et donc, ça fait du Royaume-Uni un maillon particulièrement important aussi pour les négociateurs américains et qui sont prêts à utiliser ce levier parce qu'on a bien vu avec Donald Trump. Donald Trump considère que les négociations commerciales sont un levier pour obtenir des avantages pour certaines industries américaines et pour l'économie américaine dans son ensemble. Donc il y a cette logique de gain et de gain éventuellement en imposant des choses de la part de Donald Trump. Et donc il ne faut pas attendre de la part des Américains des concessions sans concession en retour. Très
donc même si le gouvernement de Boris Johnson a annoncé il y a quelques jours un relèvement du seuil de contribution à la sécurité sociale, l'inquiétude, Eric Albert, autour d'une privatisation de ce système public de santé reste légitime à cause des incertitudes.
L'inquiétude est légitime parce qu'effectivement, c'est ce que demandent de façon tout à fait publique les Américains. Et encore une fois, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que Boris Johnson a dit, c'est promis, nous ne privatiserons pas les services de santé. Tout dépend de comprendre exactement ce qu'il veut dire. De même, sur les questions agroalimentaires, les fameux, une chose qui est devenue une tarte à la crème ici, c'est les poulets lavés au chlore. C'est autorisé de laver les poulets au chlore. À l'eau chlorée aux États-Unis, c'est pas autorisé dans l'Union européenne. Est-ce que après le Brexit, avec un accord de libre-échange, les poulets au chlore vont arriver au Royaume-Uni? Pareil, Boris Johnson a dit, c'est exclu, nous n'accepterons pas ça. D'accord, mais s'il n'accepte ni l'agroalimentaire, ni la santé, qu'est-ce qu'il a à offrir aux Américains pour obtenir un accord de libre-échange? Sachant qu'en face, Donald Trump est quelqu'un qui est protectionniste et qui n'est pas généralement prêt à faire des cadeaux à ses partenaires commerciaux. Et donc la tension, et c'est pour ça que l'année ou les deux années qui viennent sont tellement importantes, la tension est de savoir jusqu'à quand les Brexiteurs qui poussaient au Brexit vont finir par dire il faut qu'on donne des choses aux Américains parce qu'il faut qu'on ait un accord de libre-échange avec les Américains et donc tant pis ce sera les prix des médicaments ou les poulets au chlore ou quoi d'autre, ou est-ce que non, on reste aligné avec l'Union européenne? Et dans ces cas-là, la question c'est à quoi bon le Brexit? Et cette tension-là, elle n'est pas résolue pour l'instant.
Ce que l'on entend bien, c'est que tout va dépendre en effet de l'aboutissement des négociations qui devraient débuter à la fin du mois. On en parle dans un instant.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'à ce rêve. Dis adieu à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Sanglote, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent. Que serait-ce? Des adieux à jamais. Je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais.
La rupture, selon Serge Gainsbourg, sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Catherine Mathieu, Vincent Vicard et Eric Albert sont toujours avec nous pour parler du futur modèle économique du Royaume-Uni entre libéralisme et étatisme. Alors, le Royaume-Uni pourrait-il devenir un paradis fiscal aux portes de l'Europe? C'est l'inquiétude exprimée par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. On l'écoute.
Il ne s'agit pas de repousser le Royaume-Uni loin, puisqu'il oui. est tout proche, mais de faire en sorte qu'ensemble, nous ayons des compromis qui soient respectés des uns et des autres. Vous avez d'autres sujets que la pêche, vous avez aussi l'accès au marché intérieur, et si le Royaume-Uni veut établir à l'extérieur de l'Union européenne une espèce de Singapour sur Tamise, ben, nous ne serons pas d'accord. Parce qu'il faudra, pour avoir accès au marché intérieur, respecter nos règles. Si on veut jouer sur le terrain de l'Europe, il faudra en assumer toutes les contraintes, mais aussi tous les avantages.
Vincent Vicard, Singapour sur Tamise, c'est un fantasme ou peut-être bientôt une réalité?
Alors, c'est l'idée que le Royaume-Uni puisse devenir, à l'image de Singapour, un pur paradis fiscal, ça paraît effectivement un fantasme. Après, la question, c'est peut-être que certaines dimensions pourraient être prises par le gouvernement de Boris Johnson. Un paradis fiscal, ça se caractérise par un très bas taux de taxation sur les entreprises. On voit qu'au Royaume-Uni, on est à 19%, mais il n'y a pas de règles dans l'Union européenne. Il n'y a jamais eu de règles pour limiter cette concurrence fiscale. En Irlande, il y a 12,5%, certaines entreprises qui payent très peu. Donc, il n'y a pas de raison que, juste après le Brexit, le Royaume-Uni, d'un coup, se décide à faire de la concurrence fiscale agressive. Là, il n'en avait pas fait avant dans l'Union européenne.
Pas de raison de le faire, mais peut-être des raisons de l'annoncer pour peser, justement, dans les négociations.
Alors, éventuellement, mais le Royaume-Uni reste un grand pays. Un grand pays, si ils baissent la taxation des entreprises, ça veut dire renoncer à taxer l'ensemble de leurs entreprises domestiques et notamment beaucoup de multinationales. C'est pas pour rien qu'on s'aperçoit que les paradis fiscaux sont des petits pays qui, en abaissant la taxation des multinationales, vont attirer beaucoup de multinationales et donc vont y gagner alors que les grands pays n'ont pas cet intérêt.
Il faut dire peut-être que Singapour, c'est tout de même, enfin c'est une cité-état qui ne fait que 700 km² alors qu'on est à 242 000 km²
exactement.
Du côté du Royaume-Uni. Ça a quand même
donc on n'est pas du tout dans la même situation et on n'a jamais vu un grand pays faire une concurrence fiscale à ce niveau-là. Après, il y a d'autres dimensions et notamment sur les questions de concurrence réglementaire, la transparence dans l'industrie financière. Et là, on se dit que effectivement, il pourrait y avoir plus de concurrence de la part du Royaume-Uni, notamment sur les règles qui s'appliquent aux banques, les règles prudentielles par exemple, et aussi sur les liens, et ça c'est quelque chose qui existe déjà, les liens de la City avec un certain nombre de paradis fiscaux. Alors on peut penser à Jersey, Guernesey, mais aussi les Bermudes, un certain nombre d'anciennes colonies britanniques qui sont des paradis fiscaux, qui apparaissent dans un certain nombre de listes de paradis fiscaux. Et on sait qu'il y a des liens de la City avec un certain nombre de ces anciennes colonies. Est-ce qu'ils pourraient être renforcés? Est-ce que la City pourrait servir de point d'entrée? Voilà, ça c'est des questions qui pourraient être posées et qui nécessiteraient effectivement de se mettre d'accord sur des règles minimums, notamment sur le respect d'un certain nombre de règles qui ont été dictées au sein de l'OCDE pour lutter contre l'évasion fiscale, par exemple.
Catherine Mathieu, Boris Johnson va-t-il jouer cette carte du dumping fiscal et réglementaire, selon vous?
Aujourd'hui, ça n'est pas ce qu'il annonce. Et je ne pense pas que ce soit ce qu'il souhaite non plus. D'ailleurs, il y avait une baisse supplémentaire d'un point du taux d'imposition des entreprises qui était prévue il y a 6 mois, qui a été annulée pour le moment. Et comme le rappelait à l'instant Vincent Vicard, à l'intérieur de l'Union européenne, on ne peut pas dire qu'on ait une réglementation très contraignante sur les taux d'imposition des entreprises. Et avec l'Irlande qui a son taux d'imposition à 12,5% aujourd'hui, il y a encore de la marge pour que les Britanniques aillent à des niveaux aussi bas que ce qu'on a accepté à l'intérieur de l'Union européenne. Donc cette menace de Singapour sur Tamise, par la concurrence fiscale, je trouve qu'elle est un petit peu paradoxale, c'est le moins qu'on puisse dire quand elle est annoncée par les pays d'Europe continentale. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le Royaume-Uni, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, ce qui est important, c'est de garder de bonnes relations économiques et commerciales et financières avec l'Union européenne, et que le Royaume-Uni va perdre les passeports financiers qui lui permettent d'échanger librement, d'exporter librement des services à l'intérieur de l'Union européenne s'il n'y a pas d'accord prévu, et que depuis de nombreux mois, les pays d'Europe continentale, enfin les pays de l'Union européenne à 27, disent aux Britanniques, vous n'aurez plus les passeports financiers, il va falloir négocier des accords d'équivalence. Ces accords d'équivalence seront décidés de façon unilatérale par l'Union européenne en 27. Et donc, en fait, on indique au Royaume-Uni, depuis longtemps maintenant, depuis le début des négociations, que ça va être très difficile pour la City de continuer à exercer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, on peut se dire que c'est plutôt du côté des Britanniques qu'à un moment donné on pourra répondre, mais écoutez, si on ne peut plus continuer les activités comme aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Et c'est là que je pense que la City de Londres et les financiers seront très créatifs si besoin pour développer des produits, des activités qui échapperont largement aux contraintes réglementaires et pour garder la suprématie de la City. Mais il faut peut-être éviter que ce soit l'Union européenne à 27 qui mette le Royaume-Uni dans la position de créer une sorte de Singapour sur Tamis que le Royaume-Uni ne créerait pas spontanément, selon moi.
Éric Albert, le Royaume-Uni pourrait être acculé à créer ce paradis fiscal aux portes de l'Europe ?
C'est une très bonne vision des choses. C'est un vrai danger, effectivement. Le problème des Européens, depuis le début, soit ils jouent le jeu au maximum, ils font preuve de pragmatisme et l'impact du Brexit sur le Royaume-Uni sera limité et donc les Brexiteurs pourront dire « Regardez, c'est un formidable succès » et ça peut pousser d'autres pays à vouloir dire « Ben moi aussi j'ai envie de sortir » puisque ça peut bien se passer hors de l'Union européenne. Ou alors, les Européens sont très durs dans les négociations, imposent des quasi-sanctions et ça va provoquer une réaction à nos portes qui peut être effectivement contre-productive, par exemple du Singapour sur Tamise, par exemple du dumping. Et c'est vraiment une position très délicate politiquement pour les Européens de savoir laquelle des deux positions à adopter. C'est pas évident, il faut pas aller trop fortement contre le Royaume-Uni. Juste un autre point qu'il faut garder en tête. Singapour sur Tamise, du jour au lendemain, du dumping fiscal, non. Bien sûr que non, c'est un grand pays qui a des problèmes de financement de toute manière, qui peut pas se le permettre du jour au lendemain. Mais ce que disait Boris Johnson dans son grand discours la semaine dernière, c'était... je veux garder les réglementations telles qu'elles sont, au même niveau qu'actuellement, mais je veux être capable de diverger des règles européennes si je le veux. Et donc progressivement, et ça va prendre des années et des années et des années, il y aura de la divergence. Et progressivement, dans 10 ans, on va se retourner on va se dire, tiens, finalement, sur la City, ils ont profondément divergé et ils ont inventé quelque chose de nouveau. Ou sur l'automobile, au contraire, ils sont restés alignés à l'Union européenne. Donc ça va prendre des années et des années avant de vraiment savoir ce qui va se passer.
C'est vrai qu'on peut se demander comment le Royaume-Uni et l'Union européenne peuvent parvenir à un accord alors que Londres cherche à s'affranchir des normes imposées par Bruxelles et que de son côté, l'Union européenne fait du respect de ces normes la condition de l'accès à son marché, Vincent Vicard.
Oui, et c'est d'ailleurs l'objectif affiché du Brexit, c'est de pouvoir diverger en termes de normes, en termes de certaines politiques, les politiques de concurrence dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement les politiques environnementales, sur le droit du travail, tout un ensemble de politiques économiques pour lesquels le Royaume-Uni veut s'affranchir des normes européennes. Et donc, du point de vue de l'Union européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous ne voulez plus vous conformer aux normes européennes et donc on va vous donner un accès au marché en fonction d'un certain nombre de garanties. Parce que, par définition, on ne sait pas vers où le Royaume-Uni va aller dans les 5, les 10, les 15 prochaines années. Et donc, c'est exactement de ça dont on est en train de parler. Pour pouvoir donner l'accès au marché, la Commission européenne réclame un certain nombre de garanties. Alors, ces garanties, elles étaient exprimées de manière extrêmement forte dans le premier accord qui avait été trouvé avec Theresa May, où il y avait une liste de directives européennes, notamment sur les aides d'État, sur la lutte contre l'évasion fiscale, sur les normes environnementales, etc., qui étaient définies, sur lesquelles le Royaume-Uni devait s'aligner sur les règles européennes, éventuellement sur l'avancée des règles européennes. Donc ça, c'était défini, c'est la base de négociation de la Commission européenne. Mais maintenant, on sait que ce que veut, enfin, l'objectif des négociations du côté du gouvernement de Boris Johnson, c'est pas aussi ambitieux que ce qui avait été prévu dans l'accord avec Theresa May. On est aujourd'hui sur une zone de libre-échange, donc pas de droits de douane, pas de quotas, mais pas de tarifs extérieurs communs, donc pas d'union douanière comme c'était prévu, et donc à un degré d'intégration moindre, et donc sûrement une marge de négociation pour des devoirs moins importants et des contraintes moins importantes du côté de l'économie britannique.
Boris Johnson se montre beaucoup plus intransigeant que Theresa May, et ça fait courir le risque peut-être d'un hard Brexit, d'un Brexit sans accord à la fin de l'année, au 31 décembre, Catherine Mathieu.
Ah oui, ce risque d'une sortie sans accord n'a pas complètement disparu. La position de Boris Johnson depuis le référendum sur le Brexit est de dire qu'il souhaite négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne, et donc effectivement quelque chose qui est moins contraignant que ce qu'avait signé Theresa May avec les pays de l'Union européenne. Et de pouvoir, dans la logique des Brexiteurs, reprendre le contrôle. Donc si on reprend le contrôle, on reprend le contrôle sur toutes les politiques, et en particulier sur la question des réglementations et des normes. Et donc on ne peut pas dire qu'on va rester aligné sur des règles de l'Union européenne, sachant que quand même, voilà, le Royaume-Uni était dans l'Union européenne et a beaucoup influé sur la façon dont les règles dans l'Union européenne ont été faites, en particulier sur la libéralisation à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et devrait rester aligné. Donc là, au niveau de la reprise de contrôle, ça n'est pas du tout possible pour un Brexiteur. Donc le terme alignement est un terme qui, comme l'a dit récemment Michel Barnier quand il a présenté les lignes de négociation de l'Union européenne, est un chiffon rouge. Donc on ne parle plus, y compris du côté de la Commission européenne, d'alignement, mais de cohérence. Et effectivement, le point, ça va être d'assurer la cohérence des règles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ce que nous dit Boris Johnson, notamment ce qu'il a dit dans son discours aussi lorsqu'il a présenté ses grandes lignes pour les négociations avec l'Union européenne, c'est qu'en fait, le Royaume-Uni a aujourd'hui, bien sûr, les mêmes règles que dans l'Union européenne, et que le Royaume-Uni a, dans certains domaines, des règles qui sont même supérieures à celles de l'Union européenne, et que le Royaume-Uni gardera toujours des règles qui sont au moins aussi bonne, aussi élevée que celle de l'Union européenne. Alors le problème, c'est que pour l'instant, ça, c'est dans le discours de Boris Johnson, et qu'à un moment donné, il va falloir l'écrire sur le papier avec l'Union européenne. Et je ne sais pas, dans les prochains mois, comment Boris Johnson va réussir à écrire cela, bien sûr sans avoir le mot alignement. Ça, je pense que le mot aligné va disparaître complètement des discours, mais peut-être en obtenant de l'Union européenne le fait qu'on dise, eh bien, il y a des règles qui sont cohérentes au Royaume-Uni et dans l'Union européenne à 27, et qu'on accepte qu'il y ait des institutions du côté de l'Union européenne avec la Cour de justice de l'Union européenne, et du côté britannique avec une Cour de justice aussi, qui puissent être là pour régler les différends qui interviendront entre le Royaume-Uni, ou qui pourraient intervenir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur la question des règles.
Mais ça implique que l'Union européenne accepte de jouer le jeu. Or, Eric Albert, comme vous le disiez, l'Union européenne a tout intérêt à ce que cette sortie soit le plus compliquée possible pour ne pas faire des émules.
Et en même temps, si c'est trop compliqué, ça coûtera aussi de l'emploi et de la croissance à l'Union européenne. Je pense par exemple aux pêcheurs en France, je pense par exemple à tout l'agroalimentaire en France qui exporte beaucoup au Royaume-Uni. Il faut aussi bien garder en tête que c'est donnant-donnant. Il y a actuellement un déficit commercial du Royaume-Uni vers l'Union européenne. Donc ce que les Brexiteurs disent beaucoup, ce qui est bien exagéré, c'est les Européens ont plus besoin de nous que nous deux. C'est pas vrai, évidemment, le Royaume-Uni est beaucoup plus petit que l'Union européenne. N'empêche qu'il y a quand même du donnant-donnant. Donc faut pas trop faire mal non plus au Royaume-Uni, sinon les Européens aussi vont en souffrir.
Les Européens pourraient en souffrir, mais tellement moins que le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ce risque, l'Union européenne n'est pas prête à le prendre, Vincent Bicard?
Alors oui, il y a une disproportion dans le risque qui est pris des deux côtés. Pour le Royaume-Uni, l'Union européenne représente 50% de son commerce, là où dans l'autre sens, c'est 7 ou 8% du commerce d'un pays comme la France ou l'Allemagne. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. L'impact sur l'économie va se faire ressentir de manière beaucoup plus forte au Royaume-Uni que dans dans l'Union européenne. Et donc, effectivement, il y a une asymétrie dans les positions de négociation et l'Union européenne est beaucoup plus prête à défendre et aussi à défendre ce qui fait le cœur du projet d'intégration européenne, qui est ce marché unique, les quatre libertés du marché unique, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et qui est vraiment consubstantiel de l'intégration européenne telle que la conçoit aujourd'hui la Commission européenne, et qui est vraiment, qui a annoncé plusieurs fois ne pas vouloir revenir sur l'intégrité de ce marché unique. Et donc il y a une vraie question qui se pose, et notamment sur le fait de pouvoir donner une juridiction à une autre cour que la Cour européenne de justice. Ça, c'est une vraie question qui se pose pour l'Union européenne, parce que ça va remettre en cause 50, 60 ans d'intégration européenne qui se sont basés sur des principes. Et ces règles-là, elles sont vraiment le patrimoine commun des Européens, et c'est très difficile de les remettre en cause, même pour améliorer les relations avec un grand partenaire. Et ça, c'est une des dimensions qui est aussi importante. C'est un grand partenaire et c'est pas un partenaire commercial comme les autres. On peut pas négocier avec le Royaume-Uni comme on négocie avec le Canada ou comme on négocie avec le Japon. Si le Royaume-Uni prend des décisions qui vont dans la concurrence fiscale ou réglementaire, ça va avoir un impact sur l'Union européenne et sur sa capacité à réglementer de manière souveraine, important, beaucoup plus important que d'autres pays.
Mais alors on peut se demander si le Royaume-Uni ne pourra pas compenser la diminution des échanges avec l'Union européenne, si c'est ce qui devait arriver, par de nouveaux accords. Alors on parlait des États-Unis, mais ça peut être aussi le Canada, l'Australie. Est-ce que ça ne pourrait pas suffire, Catherine Mathieu?
On peut dire aujourd'hui tout de même le Royaume-Uni quitte une situation pour aller dans une situation qui va être moins facile. Hein. Aujourd'hui, il a un accès libre au marché de l'Union européenne. Demain, on ne sait pas quelles seront les conditions d'accès à ce marché. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important à la fois pour l'économie britannique et pour les économies de l'Union européenne qu'on garde le moins de friction possible pour les échanges entre les deux zones. Et effectivement, le Royaume-Uni dit depuis 2016 au moins, par Theresa May, puis maintenant par les voix de Theresa May, puis de Boris Johnson, qu'il va se tourner vers le vaste monde, négocier un accord effectivement avec les États-Unis.
C'est
avec
le projet du Global Britain.
Exactement, ouais. C'est en ça que effectivement les Britanniques là aussi ont une sorte de représentation d'un modèle britannique très ouvert sur le monde, très en faveur du libre-échange et effectivement s'engagent sur des négociations d'accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis et les pays du Commonwealth, avec lesquels ils ont de bonnes relations déjà historiques et avec lesquels aujourd'hui ils ont de façon générale un excédent commercial. Les Britanniques ont un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis et un déficit commercial vis-à-vis de l'Union européenne. Donc ils sont à peu près à l'équilibre avec en termes d'échanges vis-à-vis des pays du Commonwealth. Donc en fait effectivement les Britanniques essayent de jouer la carte du libre-échange, mais je dirais ça de façon générale, tout en souhaitant véritablement garder un accès au marché de l'Union européenne. Et c'est une position britannique qui est très très ouverte sur le vaste monde. Et dans le cadre des négociations, je pense qu'il faut quand même voir, tout à l'heure Eric Albert disait il faut faire attention dans les négociations avec entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, de pas être trop dur avec le Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, sur la question de la pêche dont on a beaucoup parlé depuis quelques temps, mais que nous dit d'un côté l'Union européenne. L'Union européenne dit, par la voix de Michel Barnier, on va demander à garder l'accès aux zones de pêche britanniques, comme avant, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Et Boris Johnson dit, l'accès aux zones de pêche, on va discuter chaque année, ce à quoi les pêcheurs de l'Union européenne auront le droit en termes d'accès dans nos zones de pêche, et on mettra d'abord la priorité aux pêcheurs britanniques.
Alors on va parler de la pêche justement, je vous propose d'écouter les témoignages de pêcheurs normands.
Ça c'est le merlan qu'on a acheté ce matin, qui a été pêché sur les côtes anglaises. Et si on n'a pas ces volumes-là, on n'a plus rien pour travailler. On a quand même beaucoup de poissonniers qui achètent directement en criée. S'il n'y a pas ces volumes de débarqués, eux vont avoir beaucoup de mal à s'approvisionner. Ça va créer une pénurie, ça va faire flamber les prix. Et je vous dis, il y a des entreprises qui ne survivront pas.
Il y a un risque pour toute la filière, juste par rapport à des approvisionnements, parce que c'est des zones, les zones anglaises sont des zones poissonneuses, et malheureusement, on a un consommateur au bout qui risque de perdre, contact avec notre métier par pouvoir d'achat.
Vous l'avez dit, Catherine Mathieu, les eaux britanniques sont vitales pour les pêcheurs européens. C'est l'un des grands atouts du Royaume-Uni dans les négociations, Éric Albert ?
C'est absolument un atout pour eux, puisque ils ont les eaux les plus poissonneuses de l'Union européenne, de très loin, et actuellement, l'essentiel, effectivement, des poissons attrapés dans les eaux britanniques sont attrapés par des pêcheurs européens. En même temps, le problème des Britanniques, c'est qu'ils mangent pas les poissons qui sont pêchés dans leurs propres eaux. C'est une chose un peu bizarre, mais c'est comme ça. Les poissons mangés par les Britanniques sont essentiellement pêchés près de l'Islande ou près de la Norvège. Et inversement, les poissons pêchés dans les eaux britanniques sont essentiellement mangés en Europe. Et donc, il y a besoin d'exporter ces poissons qui sont pêchés dans les eaux britanniques. Donc, il y a besoin d'avoir un accès au marché unique également. Donc, c'est toujours pareil. Tout le monde se tient par la barbichette dans cette affaire-là. Oui, c'est un vrai atout pour les Britanniques d'avoir leurs eaux et de pouvoir négocier leurs eaux. En même temps, pour leur secteur de la pêche, ils ont aussi besoin d'avoir accès au marché unique. Et donc, l'un dans l'autre, l'équilibre actuel n'était pas si mauvais que ça. Et j'ajoute, il n'y a que 10 000 pêcheurs au Royaume-Uni, c'est une toute petite industrie. Qu'est-ce que ça va peser le jour où on va négocier ça par rapport à la finance qui pèse 1 million d'emplois? Ça ne va pas être simple.
Mais côté européen, ça risque de mettre à l'épreuve l'unité des différents pays, car seuls 8 pays sur 27 disposent de flottes de pêcheurs, Catherine Mathieu.
Oui, c'est vrai que là, on a évidemment les pays qui ont des zones côtières qui ont fait très attention, en premier lieu la France, à ce que la question de la pêche soit négociée dès le premier semestre de cette année, en même temps qu'on négociera l'accord commercial. Parce qu'on voit bien que là, effectivement, sur l'accord commercial, ce sont les Britanniques qui ont à perdre, et sur l'accord de la pêche, c'est plutôt l'Union européenne. Alors bon, je pense que sur l'unité quand même de l'Union européenne sur ces questions-là, comme on a Michel Barnier qui est le négociateur en chef, et quand on voit la façon dont il a fait se dérouler les négociations des années précédentes, je lui fais confiance pour garder l'unité des Européens. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel tout le monde n'a pas le même intérêt, effectivement, cette question de la pêche. Mais elle sera discutée dès le premier semestre, en même temps que l'accord commercial.
Parce que ce qui complique aussi ces négociations, c'est que le délai est extrêmement serré. Les négociateurs européens et britanniques, on l'a dit, ont jusqu'au 31 décembre pour parvenir à un accord sur des sujets de discorde comme commerce, pêche, finance. C'est un peu juste, Éric Albert?
C'est absolument sans précédent. Personne n'a réussi à négocier un accord de libre-échange de cette taille-là en si peu de temps. D'autant plus qu'après, il n'y a même pas de période de transition pour mettre en place tout ça. Ça paraît pratiquement impossible, mais Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est venue à Londres au début du mois de janvier pour dire ce qu'il faut donc, c'est mettre en place des priorités. Et ce que j'entends, moi, ce que je comprends dans ce qu'elle dit, c'est elle est prête à faire un accord partiel qui ne couvre pas tout. Et ça, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut arriver à faire un accord partiel qui ne couvre pas tout d'ici la fin de l'année, en disant pas vraiment que ça ne couvre pas tout, en gardant le droit à Boris Johnson de dire « Regardez, j'ai trouvé mon accord, c'est formidable ». Et peut-être qu'on peut trouver un accord de cette façon-là. Mais c'est quand même extraordinairement serré quand il faut négocier la pêche, l'automobile, la finance, la pharmacie, les produits chimiques, et des dizaines et des dizaines, Erasmus, et des dizaines d'autres dossiers en quelques mois.
On n'a pas parlé de l'automobile, effectivement, mais c'est une industrie qui souffrirait énormément en cas de hard Brexit, de Brexit sans accord, Catherine Mathieu.
Oui, et depuis de nombreuses années, les industriels britanniques mettent en garde justement sur une divergence éventuelle des normes au Royaume-Uni par rapport à celles de l'Union européenne. Et là, je pense, je me trompe peut-être, mais qu'avec le pragmatisme qui caractérise les Britanniques, on souhaitera garder des normes qui soient les mêmes au Royaume-Uni que dans l'Union européenne. Parce que sinon, effectivement, la fabrication des automobiles au Royaume-Uni, on pense à l'emblématique Mini, qui est fabriquée à Oxford, mais avec des pièces détachées qui viennent d'à peu près tous les pays de l'Union européenne. Imaginez que demain, on dirait au Royaume-Uni, ah mais les normes pour les pièces détachées ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, ça serait complètement perdre à la fois la chaîne de fabrication et puis donc ça n'a pas de sens. Donc je pense que les règles resteront les mêmes.
Sachant que la production automobile depuis le référendum de 2016 au Royaume-Uni a déjà chuté de 25%, donc c'est déjà un gros problème. Et alors, plus largement, ça pose peut-être la question, Vincent Vicard, du rôle que veut jouer le Royaume-Uni dans la chaîne de valeur mondiale et de son degré d'ouverture, notamment à la migration, qui a été une question importante au moment du vote pour le Brexit.
Alors, il y a la question de la migration et puis il y a aussi la question, effectivement, de la spécialisation de l'économie britannique. Est-ce que un secteur manufacturier peut survivre au Royaume-Uni s'il y a des barrières importantes entre le Royaume-Uni et son principal marché qui est l'Union européenne? Alors, on peut ne pas avoir de droits de douane, mais c'est absolument pas la majeure partie des barrières aux échanges aujourd'hui. Et donc, toutes ces questions qui ont été évoquées par Catherine Mathieu juste avant sur l'automobile, elles vont se poser dans tous les secteurs. La question de est-ce que les normes de mise sur le marché sont similaires entre les deux pays, et donc est-ce qu'un producteur britannique va pouvoir vendre son produit dans l'Union européenne? C'est toutes ces questions-là qui vont être discutées dans un temps très court et pour donner des équivalences et qui vont être particulièrement importantes. Et si on revient à la question de la migration, effectivement, ça a été un des éléments qui a été beaucoup mis en avant, alors qui a été beaucoup mis en avant dans les raisons du Brexit, notamment par Theresa May. On a vu après qu'il y a des questions aussi qui sont liées à l'austérité, etc., qui peuvent aussi expliquer le vote. Une question sur la restriction aux migrations, sur laquelle le gouvernement de Boris Johnson semble avoir une vision assez différente de celle de Theresa May, avec notamment l'idée d'un système à points pour pouvoir faire venir notamment des travailleurs qualifiés, ce qui sera assez différent de l'idée qu'on avait d'immigration au Royaume-Uni jusqu'à maintenant, notamment de travailleurs de l'Est européen non qualifiés. Il reste encore beaucoup de questions qui se posent de ce point de vue-là sur le système qui sera mis en place. Mais clairement, on s'oriente plutôt vers des travailleurs plus qualifiés, qui seraient bénéfiques pour les entreprises, qui utilisent beaucoup ces travailleurs étrangers, et des travailleurs qui pourraient venir de l'ensemble du monde et peut-être moins de l'Union européenne.
Là encore, c'est une réponse à une frange de l'électorat conservateur, Catherine Mathieu.
Ou peut-être, je ne suis pas complètement sûre en fait sur cette question d'immigration. Effectivement, derrière la question de la reprise du contrôle qui a été beaucoup au cœur des débats sur le Brexit, il y a quand même le souhait du côté à la fois du gouvernement de Theresa May aujourd'hui, de Boris Johnson, d'avoir une politique migratoire qui soit la même, quel que soit, envers tous les pays en fait, et de ne pas faire de différence entre l'Union européenne et le reste du monde, et de dire à un moment donné, voilà, on a besoin aujourd'hui dans l'économie britannique de tel type de qualification. Alors ça peut être effectivement plutôt des métiers qualifiés, c'est ce qu'on dit régulièrement, mais ça peut être aussi des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre, par exemple l'agriculture, où il est tout à fait admis que dans les secteurs d'agriculture, on a besoin de travailleurs saisonniers qui viennent, qui travaillent dans des conditions difficiles pour de bas niveaux de salaire. Et donc en fait, il y a plutôt une vision aujourd'hui de dire tout, on considère l'immigration vis-à-vis de l'ensemble du monde, sans faire de différence entre l'Union européenne et les autres pays.
Et puis il y a aussi une inquiétude importante autour de la question des normes environnementales, le fait que la taxe verte pour les compagnies aériennes a été supprimée, Eric Albert, c'est quelque chose qui suscite l'inquiétude des défenseurs de l'environnement.
Encore une fois, la question, c'est est-ce qu'il y aura ou pas un dumping sur les normes environnementales. Pour l'instant, Boris Johnson dit non, il n'en est pas question. J'attends de voir. Sur l'immigration, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Les Britanniques ont en grande partie voté pour le Brexit à cause de l'immigration. Et je me déplace quand même pas mal au Royaume-Uni pour faire des reportages et les gens disent encore, je veux que l'immigration se réduise, il y en a trop. Quand vous demandez aux responsables britanniques qu'est-ce que vous voulez faire de l'immigration, ils disent, on veut reprendre le contrôle de l'immigration. Et vous leur demandez, mais est-ce que vous voulez baisser l'immigration? Ils disent, non, juste le contrôle. Donc c'est... Et on est beaucoup là-dessus sur les normes environnementales et autres. C'est est-ce que vous voulez les abaisser? Pas forcément. Est-ce que vous voulez changer les choses? Pas forcément. Mais on veut en avoir le contrôle. Il en va de la souveraineté du Royaume-Uni. Et finalement, on en est là. Ils reprennent leur souveraineté. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On verra bien.
Le 25 février, en tout cas, le Royaume-Uni et l'Union européenne se réuniront une première fois pour s'entendre sur les termes de la relation future. Prochains épisodes à suivre avec la rédaction de France Culture en particulier. Merci beaucoup Catherine Mathieu, Vincent Vicard et Éric Alpert de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Catherine Mathieu, Brexit, une sortie impossible, avec Henri Sterdignac, paru à La Découverte. Un grand merci à tous les trois. Avec le groupe Buvette et leur nouveau titre Now or Never. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Alain de Raucourt. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui, Dalia. La semaine prochaine, on explore les métropoles, les villes moyennes et les petites communes. Série intitulée « Des villes en campagne » à 5 semaines des élections municipales. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.